Le docteur Stéphanie Verzo, qui est pédopsychiatre et responsable de l'unité 1625 sur le pôle tourquenois. Le docteur Jordan Brunner, qui est psychiatre adulte, donc une intervention bigou, également sur le pôle tourquenois. Et madame Margot Delcoeur, qui est infirmière au 1625. Le thème sera les unités spécifiques pour adolescents et jeunes adultes. Et le pôle tourquenois bénéficie de la création d'une unité 1625 là depuis un an et demi. Une unité spécifique qui est très récente et assez novatrice dans la région et en France même, je pense. Je vous laisse la parole.
Merci. Alors bonjour à tous. On peut lancer le diapo. Alors, on peut lancer. Alors, l'idée aujourd'hui, effectivement, est de vous présenter un petit peu l'unité 1625 qui était ouverte à Tourcoing il y a 2 ans et demi. Alors, on a en premier temps le docteur Brunner qui va vous parler de façon un peu plus générale de l'accueil des mineurs en psychiatrie adulte et en particulier présenter aussi son travail de thèse qu'il avait pu faire sur les unités jeunes adolescents et jeunes adultes en France. Et vous présenter un petit état des lieux de ce qui existe en France, parce qu'effectivement c'est des structures assez nouvelles et il y en a peu. Moi, dans un deuxième temps, je vous parlerai de l'exemple de l'unité 1625 à Tourcoing. Et puis, en troisième temps, Margot Delcoeur, qui est infirmière dans l'unité, parlera un petit peu de sa posture de soignante et du retour des patients de l'unité pour être un peu plus dans le concret aussi. Voilà, je laisse la parole au docteur Brunner.
Alors, bonjour à tous, merci beaucoup. Donc, le docteur Brunner, psychiatre au niveau du pôle tourquenois, à l'EPSM Lille Métropole, du coup. Oh, désolé. Alors, comme on vous disait, on m'a demandé de parler de l'accueil des mineurs donc, en psychiatrie adulte. Alors, voilà. Donc, premier constat déjà, il faut savoir que c'est une population qui est en fait très difficile à identifier. Ça, on peut l'expliquer déjà par le fait que, au niveau, au niveau du code de santé publique, l'accueil des patients en psychiatrie adulte peut se faire à partir de 16 ans, mais que aussi les secteurs de pédopsychiatrie, en fait, peuvent accueillir les enfants et les adolescents sans limite d'âge supérieure. Ça peut aller jusque 25 ans déjà. Donc déjà, on voit que quand on a 16 ans, à partir de 16 ans, on ne sait pas trop déjà où est-ce qu'on va être dirigé, du coup pédopsie, psy adulte. Le deuxième constat qui se fait, c'est que c'est aussi une population qui est difficile à quantifier. Alors le contrôleur général des lieux de privation de liberté en 2017, dans son rapport sur les mineurs dans les lieux de privation de liberté, du coup, donc c'est le rapport ASAN, disait bien que les mineurs de plus de 16 ans en fait, ne font pas l'objet de traçabilité. Donc en fait, on ne les quantifie pas du tout. En 2020, le défenseur des droits donc, disait lui aussi que les établissements donc de psychiatrie adulte qui accueillent des mineurs n'ont en fait aucune obligation de les déclarer, enfin de déclarer en tant que mineurs à l'ARS. Qui fait qu'en fait, il n'y a pas de protocole national pour quantifier ces mineurs en psy adultes. Les seules démarches qui peuvent les quantifier, c'est plutôt des démarches individuelles ou des démarches de recherche. C'est notamment ce qu'a fait la Fédération régionale de recherche en santé mentale du Nord-Pas-de-Calais donc sur un audit croisé en 2018. En fait, ils ont pris 62 unités donc de psychiatrie adulte à New York-Pas-de-Calais et leur ont posé donc différentes questions sur les adolescents qu'ils accueillent. Donc 94% de ces unités ont déjà accueilli au moins une fois des adolescents et en moyenne, elles accueillaient 11 adolescents par an. En sachant que l'âge minimal le plus fréquemment cité était de 15 ans. Et pourtant, 94% de ces unités en fait, n'avaient pas de lit à dédier donc, à la prise en charge des adolescents. Ce qui veut dire qu'ils sont quand même représentés, mais qu'il n'y a pas de lit spécifique. Tout ça, ça fait en fait qu'ils sont quand même assez difficiles à quantifier sur le plan national. Alors, ils sont difficiles à quantifier, mais on sait qu'il y en a. On sait qu'il y a déjà des recommandations en fait qui ont été éditées et des propositions qui ont été éditées. Alors dans le rapport Azan, donc en 2017 toujours, il préconisait, il recommandait regrouper les mineurs de plus de 16 ans en psychiatrie adulte, donc au maximum avec des gens qui avaient au maximum 25 ans. Donc pas plus. Le défenseur des droits, lui, en 2020, va même jusqu'à dire qu'il ne faut pas mélanger les mineurs et les majeurs. Donc, en fait, il y a des recommandations, il y a des propositions. C'est quand même assez difficile à mettre en place. Et il faut savoir aussi que, du coup, en pratique, dans les services, c'est quand même très différent de ce qui est recommandé et c'est même très hétérogène selon les lieux et selon les services. On lit par exemple sur certains secteurs que l'accueil des mineurs se fait à partir de 15 ans et 3 mois. Donc ça, c'est une limite un peu abstraite qui en fait n'a pas de fondement légal et qui est plutôt un héritage des pratiques parisiennes en pédiatrie. Il y a même certains services de psychiatrie adulte, notamment dans le texte du défenseur des droits en 2020, qui parle d'une patiente de 13 ans qui avait été hospitalisée donc en psychiatrie adulte. Donc ça peut être quand même assez variable. En sachant que dans ces services-là, il n'y a pas forcément de distinction entre de lois, de règles pour les mineurs. Qui sont au contact des majeurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, ils sont en contact avec des majeurs de tout âge. Donc il y a différentes raisons qui peuvent expliquer un peu ces disparités, ce contexte un peu hétérogène. Alors déjà sur certains secteurs, il n'y a pas de dispositif spécifique aux adolescents, donc les ados vont soit en pédopsie avec les plus jeunes, soit en psychiatrie adulte. Et quand les services spécifiques existent. Il y a aussi des problèmes de saturation de ces services-là. Donc c'est pareil, soit en pédopsie, soit en psy adulte. Et puis aussi il y a des raisons cliniques parfois qui, je pense par exemple à l'agitation locomotrice, au risque hétéro-agressif, qui fait que ces patients ne vont pas forcément être hospitalisés dans un service pour ados, mais plus dans un service adulte qui est un peu plus contenant parfois ou plus habitué, on va dire, à gérer à l'agressivité. Alors, donc, il y a bien donc, des mineurs en service adulte, mais c'est un peu particulier parce que c'est une population qui est quand même à l'origine de difficultés en fait dans les services adultes, et cela pour différentes raisons. Hein. Donc, déjà, il y a d'un point de vue juridique. Donc là, je laisserai Madame Dujardin en parler un peu mieux que moi, mais je pense surtout aux questions du soin libre mineur. En fait, le soin libre mineur, c'est un soin hospitalier sur libre consentement des titulaires d'autorité parentale et pas forcément du libre consentement de l'adolescent ou du mineur. Donc ça peut créer quelques problèmes déjà. Après, il y a aussi la question de l'autorité parentale. Quand le mineur est confié à un tiers, par exemple une famille d'accueil, un foyer, on peut se demander, mais si le mineur nous est amené par le tiers, est-ce qu'on appelle les parents? Est-ce qu'ils ont l'autorité parentale? Comment on fait pour l'accord d'hospitalisation? Donc ça, c'est autant de questions légales, qu'on doit se poser, mais pour lesquelles on n'est pas forcément formé. Après, il y a aussi la notion, de soins contraints pour mineurs. Je parle surtout des ordonnances de placement provisoire. qui en fait sont des soins qui sont soumis à la décision judiciaire, mais c'est une législation qui est complètement différente des soins sous contrainte adultes qu'on peut connaître. Donc ça, pareil, il faut qu'on soit formé à ça. Et c'est d'autant plus important que, en fait, quand on est soignant qui accueillons des mineurs en service adulte, c'est nous qui sommes censés informer le patient de ses droits, de ce qu'il peut faire, des recours. Donc déjà, on voit que ça demande une formation, un travail supplémentaire. Après, c'est également une population qui donne des difficultés, mais plus d'un point de vue clinique. Donc c'est une clinique qui est spécifique du fait de différents facteurs. Hein. Là, bon, j'en ai listé trois, mais il y en a certainement beaucoup plus. Donc je parle notamment de la fragilité neurodéveloppementale. Donc c'est une population qui est en fait encore dans une phase de maturation cérébrale, un processus de spécialisation en fait de ses fonctions cérébrales. Et maintenant, on sait que ces remaniements, ces différences de remaniement, surtout au niveau neurologique, ça peut expliquer en partie certains comportements, notamment les comportements impulsifs, et les tendances aux addictions. Donc là, je parlais aussi de la fragilité plutôt systémique. Donc effectivement, la période de l'adolescent, du jeune adulte, c'est une période d'autonomisation, avec un peu une mise à distance parfois du milieu familial, ou au contraire un attachement important au milieu familial. Du coup, ça, dans des services, ça nécessite de travailler avec des systèmes familiaux qui parfois sont un peu défaillants. Mais il faut quand même travailler avec. Donc ça demande, encore une fois, un travail supplémentaire. Après, on sait aussi qu'il y a une fragilité d'un point de vue sociologique. Ces mineurs, ou adolescents, jeunes adultes, c'est une période où leur identité d'adulte va se construire. Et donc forcément, avec tout le lot d'angoisse, de questionnement, et c'est aussi quelque chose qu'on doit pouvoir aborder. Et tout ça, on sait que c'est autant de facteurs qui peuvent participer donc à l'émergence des troubles psychiatriques. Donc là, on sait aujourd'hui que la majorité des troubles psychiatriques débutent quand même avant 25 ans. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus important. Et c'est aussi pour ça que dans le rapport ASAN, donc le contrôleur général préconise que ces patients mineurs, leur suivi se fasse sous le contrôle étroit d'un médecin qui est formé donc à la pédopsychiatrie. Justement pour avoir toutes ces notions de fragilité en tête et pour les prendre de manière globale. Alors, plus que tout ce qui est clinique, il y a aussi des difficultés d'un point de vue médico-légal, point de vue organisationnel. Un service de psychiatrie adulte qui accueille un mineur, le défenseur des droits nous dit bien que en cas de problème, je veux dire, la protection du mineur, c'est quelque chose qui incombe à l'établissement. Donc ça nécessite parfois aussi également des moyens humains supplémentaires, ce qui n'est pas toujours possible. Après, c'est également donc on parlait du cadre tout à l'heure, donc effectivement, c'est des populations qui nécessitent un cadre hospitalier spécifique et des positions soignantes spécifiques. Et notamment, pardon, dans le rapport ASAN, donc encore une fois, elle recommande que les soignants qui accueillent cette population soient quand même assez formés à l'approche de la sexualité. Là, on n'a pas noté, mais il y a également la contraception, bien sûr, l'information de l'interdit, prévention des passages à l'acte, la réponse à la transgression, qui sont autant en fait de problématiques qui sont très fréquentes chez l'adolescent. Et dans le même sens, le contrôleur général préconise que les établissements qui accueillent des mineurs puissent s'adapter pour justement donner un accès à la scolarité. Donc ça, on sait que c'est compliqué. Et aussi privilégier les chambres d'apaisement plutôt que les chambres d'isolement classiques. Donc ça demande des aménagements supplémentaires, donc des moyens financiers supplémentaires. Donc on voit bien que les populations d'adolescents et jeunes adultes, c'est donc une population qui a des besoins bien spécifiques et auxquels les services adultes ne peuvent pas forcément répondre ou pas bien répondre en tout cas. D'où l'importance en fait des unités spécifiques pour adolescents et jeunes adultes. Donc là, du coup, je vais vous présenter ma thèse. Donc c'est une thèse qu'on a faite en 2020 sur la direction du docteur Verzo et avec la collaboration de la Fédération régionale de recherche en santé mentale. Alors le but, c'était de recenser l'ensemble des unités d'hospitalisation spécifiques pour adolescents et jeunes adultes du secteur public en France. C'est long, mais c'est important. À toutes ces unités, on leur a soumis un questionnaire pour justement faire un peu un relevé de pratique et surtout de cadre en fait pour le fonctionnement. Voilà. Donc sur cette carte, on voit un peu la répartition en fait des unités psychiatriques pour jeunes adultes du secteur public français en juin 2020 qu'on a pu trouver. Alors pour ça, on a utilisé en fait trois méthodes de recherche. Alors déjà, on a questionné les différentes ARS par téléphone et mail, qui nous ont répondu que ces unités n'existaient pas ou n'étaient pas référencées. Donc c'est un peu compliqué de pouvoir bien les retrouver. Elles sont pas identifiées en tant que telles. On a également interrogé la mailing list des directeurs d'hôpitaux. Donc bon, là j'ai pas eu de réponse par contre, donc ça c'est différent. Et après on a utilisé donc les moteurs de recherche classiques. Donc on a obtenu 12 résultats et on a interrogé du coup les unités elles-mêmes pour savoir si elles en connaissaient d'autres. Donc là on en a trouvé une en plus. On aurait peut-être aussi pu interroger les moteurs de recherche, les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des pages pour ces unités? Je ne sais pas. En tout cas, voilà comment sont réparties ces unités-là en France. Pour ce qui est du questionnaire qu'on leur a soumis, seulement 7 ont répondu sur les 13. Et on sait que la majorité des unités donc, ont moins de 10 ans. Donc, déjà, on est un peu biaisé sur la manière de prendre les unités et sur le taux de réponse. Mais ça vise à être amélioré. Alors, déjà, pour ce qui est de la représentation à des diagnostics, donc on voit que ce qui est le plus représenté, donc c'est tout ce qui est F20, F29, donc troubles psychotiques, les comportements suicidaires également, et également F90, 98, donc tout ce qui est troubles émotionnels et troubles du comportement apparaissant durant l'enfance et l'adolescence. Donc c'est un peu concordant avec ce qu'on peut trouver un peu dans la littérature sur l'émergence des troubles psychiatriques, sauf bien sûr pour ce qui est des troubles du comportement alimentaire qui en fait on voit sont hospitalisés plus dans des unités spécifiques que ces unités-là, et pour les troubles anxieux qui sont pas forcément hospitalisés, donc forcément à sous-représenter au niveau des indications. Donc là, désolé, ça passe pas super bien. On a fait un peu un recueil des politiques de consignes, en fait, concernant le tabac, le téléphone portable, les sorties du service et les visites, pour un peu voir leur modalité de fonctionnement. Donc les unités pouvaient répondre soit en bleu, donc pour les unités qui n'avaient pas de restrictions pour ces choses-là, soit en rouge, des restrictions selon indication médicale, ou en jaune, des restrictions selon le règlement intérieur, et vert, autre. Donc on a fait ça pour les majeurs et pour les mineurs. Voilà, les deux. Bon. Majeur, mineur. Alors, ce qu'on peut voir sur ces deux graphes, c'est que déjà, pour ce qui est visite et sortie, pour, que ce soit pour mineurs et majeurs, en fait, les visites peuvent être limitées sur indication médicale. Hein, donc ça, on est assez homogène sur les, sur les pratiques. Et c'est un peu ce qui est aussi recommandé par le rapport ASAN. Par contre, pour ce qui est du tabac, du téléphone, c'est quand même assez, assez hétérogène. On n'arrive pas trop à, trop à se retrouver. Donc ça, ça vise encore à être peut-être homogénéisé. Pour ce qui est des autres résultats intéressants, enfin, il y en a plein d'autres encore des résultats. Là, j'ai vraiment juste mis les principaux, notamment sur les espaces d'apaisement. Donc, on voit qu'il n'y a que deux unités sur les sept qui ont répondu qui ont présenté donc un espace d'apaisement. Et pour ce qui est des pédopsychiatres, ils ne sont que présents dans deux unités sur sept. Ce qui fait que la, ce qui était préconisé, vous savez, dans le rapport ASAN, sur le contrôle étroit des pédopsychiatres et sur les chambres d'apaisement plutôt que les chambres d'isolement, ben on voit que c'est pas encore très en accord en fait avec ces recommandations là. Donc voilà. Donc pour conclure, on peut dire que c'est les unités pour adolescents et jeunes adultes sur le secteur public français sont pour le moment encore peu nombreuses. Soit peu nombreuses, soit on n'arrive pas bien à les retrouver, c'est un peu difficile, elles sont mal référencées. Donc il faudrait qu'on puisse améliorer un peu tout ça. Elles n'ont pas beaucoup de culture commune. On voit quand même qu'il y a, sur les résultats qu'on a trouvés, il y a beaucoup d'hétérogénéité. Donc tout ça, ça vise quand même à être en accord avec les recommandations. Et donc c'est quand même important, encore pour ces unités-là, dans un but d'optimisation, un peu peut-être de travailler en réseau pour harmoniser un peu les pratiques et faire en sorte qu'on puisse tous travailler un peu dans de bonnes conditions. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Merci Jordan. Alors, du coup, comme le disait le docteur Hénon, à Tourcoing, on a le projet de l'unité 1625 donc qui a ouvert en juin 2019. Donc on a 2 ans et demi un petit peu d'expérience dans cette unité. L'idée, c'est de vous présenter un petit peu son fonctionnement et de pouvoir un peu discuter. En effet, comme Jordan l'a dit, c'est des unités qui existent peu, pour lesquelles on a peu de modèles de référence sur lesquels s'appuyer. Voilà. Alors, le projet, donc, qu'on a ouvert en juin 2019, c'est une unité qui est intersectorielle, donc qui effectivement qui concerne deux pôles de l'EPSM Lille Métropole, le pôle du G16-G17 et le pôle du G18-I03, donc le secteur de pédopsychiatrie qui correspond. C'est une unité qui est en transversalité entre la psychiatrie infanto-juvénile et la psychiatrie générale, et dont l'objectif est donc de répondre à des besoins de soins spécifiques pour cette population de tranche d'âge adolescent-jeune-adulte, dans le but de repérer précocement et de fluidifier le parcours de soins. Donc là, vous avez la photo des unités tourquenoises de psychiatrie, où est basée l'unité d'hospitalisation 1625. Comment ça fonctionne? Alors, on a 10 lits d'hospitalisation. On hospitalise les jeunes en urgence ou de façon programmée, aussi en hospitalisation séquentielle. Donc c'est coordonné par moi, qui suis pédopsychiatre. Et on travaille donc avec une équipe pluridisciplinaire, avec des psychologues, psychomotriciens. On parlait tout à l'heure de la place des éducateurs, effectivement, on travaille avec des éducateurs spécialisés, une équipe infirmière et soignants, diététiciens, et puis des vacataires aussi qui interviennent dans l'unité, un éducateur sportif et puis une plasticienne. On a aussi la possibilité d'hospitaliser les jeunes dans en modalité de soins sous contrainte. Alors on en a très peu quand même dans le service, mais on peut les accueillir. Voilà, je voulais faire une petite visite guidée en vidéo, mais j'ai pas. Donc je vous ai mis quelques photos pour vous montrer un petit peu les lieux, parce que c'est une unité qui est quand même assez agréable, on va dire, avec pas mal de possibilités. Alors, Jordan parlait de la salle d'apaisement qui fait partie des recommandations un petit peu dans le l'accueil de cette population. Donc, la salle d'apaisement qu'on a dans le service, elle est sur la photo qui est en haut à droite. Un outil qu'on utilise beaucoup, qui permet bien d'éviter des mesures d'isolement, de contention, qu'on a aussi très peu dans le service. Voilà, il y a un petit jardin, un sac de frappe qu'on utilise beaucoup aussi. Il y a une cuisine thérapeutique où tous les jeunes mangent ensemble. Il y a un baby-foot. On utilise beaucoup le sport aussi. Là, vous avez la salle de sport, une salle télé. Bon, la télé, c'est plus tellement de leur génération, donc ils ne regardent pas tellement, mais elle existe. Et puis, une salle d'activité, là, en bas à droite. Voilà, qui est ouverte tout le temps. Alors, en quelques chiffres, notre durée moyenne d'hospitalisation, on la veut assez courte, enfin relativement courte. On est sur des durées moyennes de séjour de un peu moins de 11 jours sur l'année 2020. On la veut assez courte pour plusieurs raisons, à la fois parce que l'hospitalisation ne doit pas être non plus l'occasion d'une rupture trop longue avec l'environnement social et scolaire. C'est quand même beaucoup de jeunes qui sont encore dans des études, encore scolarisés. Et puis aussi parce qu'on se rend compte que des hospitalisations courtes et répétées sont parfois plus efficaces qu'une grande hospitalisation. On a 22% de mineurs. Et on a donc 95% de soins libres. Sur la répartition des âges, c'est essentiellement la tranche d'âge 17-20 qui est la plus représentée dans le service, ce qui s'explique assez aussi par le fait que finalement la problématique adolescent-jeune-adulte, elle concerne surtout cette tranche d'âge-là, qui est un peu la transition entre le lycée, les études supérieures, la prise d'autonomie, tout ce que ça induit aussi comme vulnérabilité, comme complication. Et voilà, passé 22, 23, 24, on est quand même davantage sur des problématiques plus adultes et pour lesquelles, parfois, ben, on privilégie aussi le secteur psychiatrie générale et un cadre un peu différent. Alors, les spécificités de l'unité, on a beaucoup parlé du cadre. Effectivement, le cadre de soins, il est en permanence questionné dans cette unité pour plusieurs raisons, à la fois parce qu'on a des mineurs et des majeurs et que ça pose aussi des différences sur le plan purement légal de ce qu'on peut autoriser, pas autoriser, et différemment. Et en même temps, ils sont hospitalisés au même endroit, donc il faut bien harmoniser un petit peu les choses. La spécificité de la salle d'apaisement, comme on le disait, la transversalité pédo-psy générale. Alors effectivement, c'est du bigou, comme disait Mickaël, et c'est ce qui fait toute la richesse, toute la difficulté aussi d'être dans du bigou, parce que c'est pas toujours des goûts qui s'accordent. Bon, et la prise en charge de l'ado, finalement, c'est aussi un des grands enjeux. C'est comment cette tranche d'âge qui est un petit peu entre les deux, entre la pédopsie, c'est plus vraiment de la pédopsie. Est-ce que c'est déjà de la psy adulte alors qu'ils ne sont pas franchement adultes parce que effectivement, sur le plan cérébral, on est adulte à 25 ans. Bon, c'est, à quel âge on est adulte, c'est la grande question quand même. Il n'y a pas vraiment de consensus là-dessus. Je pense qu'il faut quand même avoir bien en tête quand on fait de l'ado qu'on est dans du développement et que l'âge ne dit rien, en tout cas ne suffit pas à dire où on en est dans le développement de l'adolescent. C'est bien plus compliqué que ça. Et du coup, voilà. Alors, est-ce qu'on se renvoie la balle en se disant, bah non, c'est les psy adultes, c'est les pédopsies. Je pense que ça, c'est un problème un petit peu récurrent en psychiatrie, mais. Et peut-être pas qu'en psychiatrie d'ailleurs, je pense qu'en pédiatrie ça peut poser les mêmes difficultés. Voilà, l'enjeu je pense dans la prise en charge des ados, c'est pas de se dire que c'est ni l'un ni l'autre, mais c'est plutôt de se dire que c'est les deux et que finalement l'intérêt c'est de développer une double culture, pas à la fois une culture qui serait que ado, mais de pouvoir se dire que là on a besoin des deux et que c'est une population qui a des besoins quand même très spécifiques et très, il y a un enjeu quand même très important de santé publique et que d'être à deux pratiques qui sont parfois très éloignées l'une de l'autre, c'est pas impossible non plus, et ça peut se rejoindre à beaucoup d'endroits, et que c'est comme ça, à mon avis, qu'on répond le mieux. Voilà, alors après, bah, sur les spécificités, effectivement, de la même façon, on emprunte un peu à la fois de ce qui est de la pratique pédopsychiatrique et puis de la pratique adulte. Alors, les plannings de soins individuels, ça, c'est des choses qui sont très, très pédos. De faire des plannings, des emplois du temps pour les patients, voilà. On utilise et ce qui fonctionne plutôt bien, c'est-à-dire que ça structure le temps. On sait que les adolescents, ils ont besoin quand même d'un minimum de repères temporels, de prévisibilité. Ça évite quand même beaucoup de moments de flottement où il ne se passe rien. Et ça, c'est des choses qu'on doit travailler. Voilà. Donc, ils ont des emplois du temps. Ils savent un peu à l'avance ce qui va se passer pour eux dans la semaine, qu'ils vont voir, comment ça va se passer, à quelle heure. Voilà, on utilise effectivement beaucoup aussi de médiation, étant donné que un adolescent, l'entretien individuel où on verbalise, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus, ce qu'il y a de plus efficace pour beaucoup, et que il y a besoin d'utiliser d'autres médiations pour favoriser l'expression, le symbolique autrement que par la parole. Il y a aussi un temps de parole de groupe qui est animé par le psychologue. Les autres spécificités, c'est qu'on travaille aussi, donc on a la chance aussi d'avoir sur Tourcoing le centre de proximité qui fait partie du centre support de réhabilitation psychosociale et qui permet de proposer à ces jeunes des outils de remédiation cognitive notamment et de prise en charge qui sont quand même très précieuses dans des troubles qui émergent et qui ont encore pour lesquels on a grand intérêt à travailler sur la remédiation cognitive, la resocialisation, et on voit à quel point ça fonctionne bien. Et puis on travaille aussi parce qu'on a aussi des comorbidités addictologiques avec le XAPA de Tourcoing, qui aussi le travail est précieux. Alors, bon, tout ça c'est dans les grandes lignes, évidemment. C'est un besoin, on a bien vu l'ouverture de l'unité, elle a été très vite identifiée par les jeunes. Et on voit bien le besoin de ces jeunes de solliciter ce type de service. On voit bien à quel point la possibilité, enfin cette disponibilité et ce soin un peu spécifique répond aux attentes des jeunes. On le voit par le fait qu'ils rappellent très régulièrement le service, mais que ça ne va pas, ils ont ce réflexe, ils l'ont acquis pour beaucoup. Donc, ce qui illustre quand même ce sentiment qu'il y a une disponibilité, qu'il y a une offre quand ils sont en difficulté. Et en même temps, je pense que vous pouvez imaginer que ce n'est pas sans difficulté non plus de réunir des jeunes dans un service d'hospitalisation, 10 jeunes en particulier. Et ça pose, ça nous a amené à nous confronter à un ensemble de difficultés. Alors des difficultés qu'on a pu découvrir, qu'on a pu anticiper, d'autres moins. Et qui sont quand même, qui font partie aussi, et qui font partie de la prise en charge des ados. Alors, sans vous faire la liste des difficultés, parce que ce serait long, ce qu'on peut en dire, après, Margot Delker, qui est infirmière, en parlera aussi. Peut-être, dans un premier temps, ce que je dirais, c'est qu'il y a une vraie question à avoir sur la question de la réponse à la crise. Alors, c'est aussi un petit peu le sujet de la journée, mais comment on répond et quelle disponibilité on peut avoir, parce qu'on constate quand même que les jeunes, les adolescents sont quand même particulièrement sensibles à la réponse qu'ils vont pouvoir avoir. Et un jeune qui se présente en consultation sans rendez-vous, qui est dans une pensée immédiate, hein, parce que la plupart du temps on est dans une pensée immédiate, je vais pas bien maintenant, il faut faire quelque chose maintenant. Mais alors, quand ils arrivent à dire qu'ils vont pas bien, parce que c'est pas l'évidence non plus, mais ils savent pas du tout dire pourquoi et de quoi ils ont besoin. Et alors, accepter une aide, c'est loin d'être évident. D'accepter une aide en hospitalisation avec un cadre bien spécifique et c'est encore moins l'évidence. Donc tout ce travail un petit peu de, alors d'équilibriste peut-être, mais de répondre, parce qu'il faut répondre tout de suite, mais de répondre peut-être pas de la façon dont on pourrait l'imaginer tout de suite en hospitalisation, avec un cadre qu'il faut accepter, auquel il faut adhérer, alors que parfois ils n'ont jamais rencontré ni de psychiatre ni de psychologue, ils ne savent absolument pas ce qui les attend, c'est quand même assez compliqué. Donc je pense qu'il faut avoir une réflexion aussi sur comment on répond. Est-ce que l'hospitalisation d'emblée est nécessaire, ou est-ce qu'on ne peut pas travailler un minimum travailler un minimum l'adhésion du jeune? Et je pense que ça fait partie de la réussite derrière des soins de l'hospitalisation, de les responsabiliser, comme disait Christophe Debien. Ou parfois on va peut-être prendre un petit temps pour répondre, en tout cas de dilater un petit peu la demande pour qu'une responsabilité et une vraie demande, enfin une demande c'est un bien grand mot chez un ado, mais en tout cas une adhésion minimale quoi. Et puis la question du cadre qui est aussi, comme je le disais, en permanence mise à l'épreuve, ça fait partie du développement adolescent hein, que d'être aussi de se confronter au cadre, la question des transgressions, la question, donc je pense que ce qu'on constate c'est que tout cadre est tout le temps remis en question et parfois sans qu'on puisse l'anticiper, et ça nous oblige à réfléchir en permanence aux règles, alors sans les modifier, parce qu'on peut pas à chaque transgression revoir la règle. Mais ça nous oblige quand même effectivement à réfléchir à la souplesse de ce qu'on peut mettre en place. Voilà, je pense par exemple aux mises en danger ou aux comportements auto-agressifs. Alors, dans le service, on a évidemment limité l'accès aux objets possiblement dangereux de façon générale. On a été confronté à voilà, des choses auxquelles on n'avait pas anticipé. Je pense par exemple une patiente qui avait démonté les vis de sa table de nuit pour se scarifier. Évidemment qu'on n'avait pas imaginé qu'une table de nuit pouvait être source de danger potentiel. Bon, est-ce qu'il faut supprimer les tables de nuit pour autant? Je ne crois pas. Mais voilà, c'est ces questions-là en fait qui sont en permanence amenées par les ados. Et jusqu'où on va dans le cadre et dans la limite. Voilà, c'est à la fois ce qui est intéressant. Et puis ça, Margot en parlera peut-être davantage, mais sur la question de l'identification, parce que comme l'ado est dans une pensée immédiate et une demande immédiate, l'ado est aussi dans une phase de développement où il fonctionne par identification, et ce qui peut amener des difficultés dans la relation au groupe, avec des phénomènes de contagion émotionnelle, et puis le rapport aux soignants aussi. Et donc je remercie Margot d'avoir bien voulu accepter de vous parler aussi de sa place d'infirmière dans le service. Je lui laisse la parole.
Alors du coup, bonjour, je suis Margot Delcoeur, infirmière au sein de l'unité 16-25 ans. Je vais faire un point sur la posture soignante et l'impact de la relation soignant-soigné. Alors on parlait beaucoup du cadre, des plannings, de l'emploi du temps. On tend aussi du coup vers une responsabilisation de l'usager. Donc on parle aussi d'objectifs d'hospitalisation, des objectifs de soins à médiation à chaque fois qu'ils sont réalisés, des objectifs de vie également. On sait que la plupart du coup des jeunes, des usagers qu'on accueille mettent à l'œuvre leurs relations, tant avec leur entourage, mais aussi du coup avec leur thérapeute, avec nous soignants. Donc il y a un test des liens, un test des limites, ce qui demande une cohésion, une très bonne cohésion de l'équipe, une très bonne cohésion du cadre, pour éviter à tout prix, faire attention au clivage qui peut entraîner du coup d'autres problèmes. Ça demande aussi des anticipations, des réactions émotionnelle et comportementale, donc comme les menaces suicidaires, les automutilations, l'alternance d'idéalisation et de dévalorisation, l'hypersensibilité interpersonnelle. Quand je parle du coup des menaces suicidaires, automutilations, donc tout ce qui est auto auto-agressivité, c'est vrai que c'est principalement du coup ce qu'on rencontre au sein de notre unité. Il y a très très peu d'hétéro-agressivité, que ce soit physique ou verbale. Ces réactions, c'est vrai que si elles ne sont pas anticipées, même si on ne peut pas non plus tout anticiper, ça peut entraîner des impacts sur la prise en charge de l'usager, mais également et ou un épuisement des soignants, de l'équipe. Donc, il y a également un risque de contagion émotionnelle, contagion suicidaire. Je pense à là, au niveau de la contagion, ça arrive, c'est déjà arrivé que, par exemple, des jeunes mettent en faute, enfin, leur projet de sortie pour continuer de rester au sein de l'unité suite à la création de liens avec d'autres jeunes, donc ce qui peut également du coup poser problème, c'est quand même assez compliqué. Au niveau de la contagion suicidaire, je pense aussi au fait que c'est déjà arrivé à un jeune qui passe à l'acte suicidaire, par exemple, dans sa chambre. Nous sommes préoccupés par l'urgence. D'autres jeunes saisissent ce moment pour également se rendre dans leur chambre, pour également passer à l'acte suicidaire. Donc au niveau de la contagion suicidaire, c'est ça qu'on fait très très vigilant, parce que ça peut très vite, ça va très vite et c'est très compliqué du coup à gérer sur le moment et par la suite également. Je pense aussi, on a parlé beaucoup des réseaux sociaux, donc au niveau contagion suicidaire, on est pas mal confronté aussi à des appels téléphoniques de jeunes qui sont sortis d'hospitalisation, qui nous appellent lorsqu'ils vont pas bien, ou lorsque d'autres jeunes appellent pour d'autres jeunes pour dire qu'un tel est passé à l'acte suicidaire. Donc ça, c'est très compliqué aussi de gérer, de remonter la chaîne, de qui, de quoi, qu'est-ce qui se passe, d'identifier la personne, surtout d'identifier où elle se trouve, pour pouvoir déclencher derrière les services des urgences. Des situations du coup compliquées où des fois les jeunes ne veulent pas nous indiquer où ils se trouvent, où c'est très très compliqué à remonter et à identifier. Alors, c'est là pour entraîner du coup des réactions contre-transférielles, de peur, de rage, de recherche de proximité excessive, notamment parfois avec le personnel. On a beaucoup de jeunes, encore une fois, avec les réseaux qui cherchent l'équipe, les professionnels qui côtoient sur les réseaux sociaux, qui essayent de les contacter, leur envoyer des messages, etc. Donc la construction du lien thérapeutique, évidemment, est difficile avec des personnes pour lesquelles établir une relation équilibrée est compliqué. Ça demande vraiment des repères clairs, quand même un corpus théorique solide, des stratégies bien construites, que ce soit personnellement ou en équipe. Donc c'est vrai que c'est compliqué de prendre en charge, quand c'est comme ça, un service où on a 10 usagers, où on est confronté à différents problèmes comme on a déjà pu évoquer, comme je viens de vous dire, lorsque la tendance à aller aux agir, que les orages émotionnels surpassent les forces du maintien de groupe. Donc un autre point important qui est toujours bien sûr en lien, c'est l'importance du travail en équipe. Donc que ce soit pour l'usager, pour les usagers, et que ce soit également pour nous, parce que c'est vrai qu'on est confronté à des situations qui sont quand même difficiles. Donc lorsqu'on fait face à un questionnement, à une difficulté, le docteur Desbiens le disait tout à l'heure, l'importance de passer la main sur la situation aux collègues ou autres. On a fait également un retour des usagers concernant leur hospitalisation du coup au sein de notre unité et à contrario au sein d'une unité psychiatrie générale conventionnelle. Donc en point positif, les jeunes ont pu exprimer de ne pas rester principalement seul sur son téléphone dans la chambre, de faire plus d'activités. La prise de distance avec le téléphone, donc qui est souvent bien sûr source de problèmes. Je parlais du coup d'anticiper les réactions émotionnelles et comportementales, bien qu'on ne peut pas tout anticiper. On sait que par exemple, le moment des téléphones, ça peut être compliqué. parce que soit par différents problèmes, comme on sait, l'harcèlement, etc., ils sont reconfrontés à leurs problèmes, ou au soir, au moment du coucher, donc tout simplement concernant tout ce qui est reviviscence. On sait qu'il faut être plus vigilant. Un autre point positif, découvrir d'autres activités du coup qu'ils aiment faire ou qu'ils ne faisaient plus, tout simplement. Et un point entre guillemets un peu plus négatif, c'est encore une fois la question du téléphone. Mais là, moins de contact avec l'entourage. Le fait que, en fait, le téléphone, il est autorisé que de 16h30 à 18h30. Donc pour certains, c'est un problème, mais pour certains, du coup, c'est également positif. Et en autre point, il y a aussi le fait de s'attacher à d'autres personnes qui ont également des problèmes, ce qui est encore moins facile à gérer, surtout ensuite quand ils repartent avec les problèmes sur l'extérieur et qu'on reçoit des appels, comme je vous ai expliqué. Voilà.
Alors, juste un petit mot pour finir, parce que je pense qu'on a un petit peu dépassé le temps. Bon, du coup, au fil de ces deux années et demie, là, on a pu aussi, pour vous dire un petit peu nos perspectives, parce qu'on a construit cette unité d'hospitalisation. Pour la réponse en hospitalisation, on s'est assez vite rendu compte que finalement, c'était très bien et que ça répondait un vrai besoin. On s'est aussi rendu compte qu'il y avait peut-être besoin encore davantage d'augmenter les propositions de soins. Et que la réponse par l'hospitalisation était certes utile, mais parfois insuffisante, et que le risque de rupture derrière l'hospitalisation ou la difficulté à amener vers les soins, il y avait peut-être besoin de proposer d'autres choses. Donc là, on a pour projet d'étendre un petit peu cette proposition de soins avec la mise en place d'une équipe mobile 1625, qui sera rattachée à l'unité d'hospitalisation, à la fois pour répondre aux besoins en amont, en aval de l'hospitalisation, parce qu'on sent parfois que après l'hospitalisation, il y a une espèce de vide, hein, il y a eu beaucoup de choses pendant l'hospitalisation, puis les jeunes se retrouvent à l'extérieur et font part du sentiment d'être un petit peu lâchés. Et puis pour articuler aussi les soins, c'est-à-dire que on sait que le risque de rupture et de perte de vue est important. Donc l'idée de l'équipe mobile serait d'accompagner ce parcours de soins, mais aussi avant ou après, ou en alternative à l'hospitalisation et en articulation avec les dispositifs ambulatoires qui existent. Donc voilà, on va étendre l'équipe. Donc je glisse en même temps l'information pour les praticiens qui seraient intéressés par la prise en charge des ados, ce qui est quand même hyper intéressant. Voilà, il y a des possibilités pour venir travailler avec nous. Voilà, merci.
Merci à vous trois, merci beaucoup. Le timing est effectivement un peu serré, mais on a éventuellement la place pour une question. Docteur Nicolas Lalot.
Oui, enfin, je voulais souligner la réalité de cette structure. Hein. Je crois que le Covid a marqué aussi une population qui était en souffrance, qui est la population des jeunes. Et donc la pertinence de l'ouverture de cette structure, pour moi, elle est évidente. Elle est jeune, cette structure. Vous témoignez vraiment de quelque chose de très chouette. Je profite de la présence d'Éric Salomé, ici présent, comme pédopsychiatre, pour inciter la création et l'ouverture de ce type de structure sur la région. C'est vraiment pas fondamental. Il y a vraiment, enfin, des difficultés, mais ça a été évoqué en filigrane. Hein. Christophe Desbiens l'a évoqué. Il y a une souffrance qui est partagée au niveau des réseaux sociaux. Et il y a vraiment pas assez de réponses, quoi. Je veux dire, il faut faire quelque chose. Les jeunes savent plus comment s'en sortir actuellement. Hein. Enfin, ils sont hyper connectés, mais hyper seuls. Et donc, il faut promouvoir ce type d'ouverture de structure, hein, que ce soit des lits d'hospice, que ce soit l'accès aux soins, que ce soit des équipes mobiles. Hein, je pense qu'il faut vraiment que les professionnels, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais se remontent les manches et accompagnent la création de structures polyvalentes, polyprofessionnelles. Le rôle de l'aide-soignant a été évoqué par Christophe Desbiens. Je suis convaincu, hein, effectivement, de la composition et de la place aussi des aides-soignants qui repèrent et qui visualisent des choses qui ne peuvent pas être verbalisées autrement que par l'observation ou par des moments qui sont différents du soin classique, hein, véhiculé par des médecins, infirmiers ou psychologues ou éducateurs. Donc, bravo. Et je m'adresse à nouveau à Eric Salomé, qui est pédopsie, d'ouvrir et de solliciter d'autres chefs de pôle à ouvrir ces structures. Merci.
Bravo.
Ça n'était donc pas une question. Est-ce que quelqu'un a éventuellement une question pour nos intervenants? Oui.
Oui, bonjour. Je suis infirmière à l'éducation nationale. En fait, la difficulté qui se pose quand on est hors secteur hospitalier, c'est savoir parfois ces structures-là, comment les connaître, comment on oriente les jeunes, parce que souvent la réponse qu'on a, c'est les urgences. On ne connaît pas forcément toutes les permanences qui peuvent exister, les accès, mais justement, voilà, savoir comment on peut vous orienter les jeunes, en fait, sans forcément passer par les urgences.
Alors, effectivement, c'est dans ce que je disais aussi sur la réponse, la disponibilité, parce qu'elle est importante. Je suis d'accord que là, il faut parfois des réponses assez rapides et adaptées et d'éviter de passer par des intermédiaires qui n'occasionnent que des ruptures. Donc, on y travaille. C'est aussi le sens de l'équipe mobile, c'est-à-dire de pouvoir avoir une réponse qui n'est pas forcément le circuit classique de l'urgence, de l'évaluation, de l'hospitalisation, parce que ça, les jeunes ne s'y retrouvent pas si bien, puis ça répond pas toujours en termes de temporalité et puis de choses. Enfin, qu'on vient calquer sur une demande qui est pas toujours celle-là. Donc c'est aussi l'enjeu, voilà, de ce qu'on essaye de développer sur un premier accès aux soins qui soit pas forcément, d'ailleurs, qui soit pas forcément intra-hospitalier, mais qui puisse être à domicile et de favoriser, parce que voilà, on voit bien l'importance de l'accroche et de l'entrée dans les soins et de la réussir pour éviter, voilà, qu'on dise bah non, la psychiatrie c'est pas ça qu'il me faut. Donc voilà, effectivement, on a à travailler sur une visibilité et sur un accès identifié. Je pense aussi que ça devra passer par les réseaux sociaux, parce que c'est comme ça qu'ils vont chercher l'info. Donc, en tout cas, on y travaille. Ouais, aussi par les médecins traitants, passer l'information aux médecins traitants.
Moi, je tiens aussi à souligner donc, l'importance de l'équipe socio-éducative aussi du service, qui fait quand même beaucoup de liens aussi avec... notamment les écoles, les infirmières scolaires, pour aussi un peu fluidifier en fait à l'arrivée. Je sais qu'on fait pas mal de, quand il y a des interventions pour des patients, par exemple, quand il faut intervenir dans des écoles, on y va assez rapidement pour discuter même du PAI ou des choses comme ça pour mettre des gens en place. On en profite souvent pour aussi glisser un petit mot sur comment est-ce qu'on fonctionne. Donc ça aussi, c'est...
C'est vrai qu'on a ces derniers temps des établissements scolaires qui nous contactent directement, qui connaissent l'unité, qui nous appellent. Et Madame Tocoche, qui est éducatrice aussi dans le service, a des liens aussi avec les infirmières qui maintenant appellent directement Stéphanie Tocoche pour solliciter une prise en charge. Donc ça commence à être repéré, quoi. Ouais.
Bon, merci à vous trois.
Dernière intervention de la matinée.
Excusez-moi. Je voulais poser une question. Je suis ici. Je voulais poser une question à l'équipe, mais ça s'est clôturé un peu rapidement. Je ne sais pas si je peux la poser ou pas.
Allons-y.
Allons-y, merci. Nous sommes une unité pédopsychiatrique, on vient de Belgique, et donc j'étais interpellé par votre présentation parce que c'est une unité fort similaire à la nôtre. Et donc je me demandais, vous avez dit que pour vous, le temps d'hospitalisation court était préférable à un temps trop long. Je me demandais un peu pourquoi vous pensiez ça, parce que vous aviez l'air de dire qu'un temps plus long amenait moins de résultats. Et la deuxième question, c'était s'il y avait une base théorique, un modèle théorique de base dans la création de cette unité. Merci.
Alors, sur la durée d'hospitalisation, c'est un peu en faisant le constat que sur des longues durées d'hospitalisation, parce que je parlais des phénomènes aussi de groupe, des effets de groupe sur les dynamiques de groupe qui s'installent, et où, finalement, dans les périodes où on a eu des hospitalisations un peu plus longues et des groupes qui se formaient, on se rend compte de la difficulté aussi que ça amène dans les effets de contagion, dans les dynamiques, dans les alliances entre les patients. Et c'est aussi dans l'idée de prise en charge plus séquentielle, où on se rend compte que finalement, ça permet aussi d'avoir un temps à l'extérieur et de pouvoir travailler après sur ce qui se passe aussi dehors, et que de rester trop longtemps dedans, à mon sens, le risque, c'est aussi de perdre de vue un peu ce qui se passe pour eux. Et on sait que l'environnement social est primordial aussi, l'environnement scolaire. On travaille beaucoup à les raccrocher sur le plan scolaire ou professionnel, et c'est un peu dans ce sens-là. C'est aussi en faisant le constat de ça. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Oui.